This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres ici en peine.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte the everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire, ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Sébastien Devé. Alors cette année-là, 1954, eh bien, c'est un changement au niveau de la manière dont se présentent les disques. C'est-à-dire que les vinyles, qui faisaient jusqu'à présent 25 cm, vont faire 30 cm. Donc la pochette s'agrandit. Et de ce fait, bon nombre d'artistes se trouvent intéressés par cette surface. Et donc vont s'amuser, et faire plus que ça même, et illustrer les pochettes de disques des musiciens de jazz. Alors Jackson Pollock, le spécialiste du dripping, est souvent invoqué par les musiciens comme une référence. Il travaillait depuis 1948 en pleine phase bebop, et son style a fait certains émules, et David Stone Martin illustrera des albums de Benny Carter ou de Woody Herman. Robert Rauschenberg, autre peintre contemporain, peint une toile intitulée Monk, en hommage à Thelonious Monk. Mais il n'y a pas que les arts plastiques, la photographie explose également et on a des résultats absolument superbes. Alors quelques noms, Herman Leonard, William Claxton ou Carl Van Wecken font des musiciens de jazz un sujet de prédilection. Et à partir de là, donc pratiquement tous les vinyles de 30 cm vont introduire une dimension d'art moderne. Tout ceci disparaîtra évidemment avec l'arrivée du CD. Et c'est bien dommage. Alors cette année-là, il se passe un autre événement beaucoup plus dramatique. Le 1er novembre 1954, le Front de Libération Nationale d'Algérie déclenche une insurrection.
Elle dura 8 ans, deux fois plus longtemps que la guerre mondiale. Elle fit tomber 6 présidents du Conseil et s'effondrer la 4e République. Elle ramena de Gaulle au pouvoir, puis faillit causer sa chute. Par deux fois, elle porta la guerre civile en France. Ses graffitis, aujourd'hui encore, font frissonner. Et pourtant, la France en sortit plus riche et plus puissante qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Elle fut bien évidemment à l'origine de la nouvelle Algérie. Elle causa la mort de plus d'un million de musulmans et l'exil d'un nombre équivalent de colons européens. Terreur impitoyable, cruauté monstrueuse, torture systématique, violence aveugle furent ses caractéristiques dans les deux camps. Ce fut aussi une époque héroïque et tragique, la dernière et peut-être la plus significative des guerres coloniales, la guerre d'Algérie.
Un extrait de récapitulatif de ce qui s'est passé donc de 54 jusqu'à la fin de cette guerre. Alors, on dit aujourd'hui que c'était une guerre, il faut se souvenir qu'en 1954, donc au moment du déclenchement de cette insurrection, l'État français appelle ce qui se passe, à une manière de nommer ce qui se passe, les événements d'Algérie. C'est-à-dire qu'on éprouve une sorte de pudeur, au départ en tout cas, et même par la suite, à prononcer le terme de guerre. Pourtant, ce qui va se passer, c'est que ça va déclencher une véritable guerre civile, avec des conséquences qui vont être terribles sur le fonctionnement de l'État français. Cette guerre civile, elle va être d'autant plus difficile qu'elle va envoyer un contingent très important en Algérie, dans un théâtre d'opération auquel ne sont pas habitués, évidemment, les militaires français. Ils sont bien armés, bien équipés, mais ils se retrouvent sur un territoire et dans des terrains extrêmement escarpés, très difficiles d'accès, où la marche à pied devient au bout d'un moment la seule solution. Je vous propose d'écouter un extrait d'une opération menée par l'armée française appelée Opération Jumelle.
Ces antennes sont celles du PC Artois, capitale de l'opération Jumelle. Elles se dressent sur l'un des plus hauts sommets de Kabylie, à 1700 mètres au-dessus de la vallée de la Soumam. Rien ne manque, ni les avions, ni les hélicoptères, ni les camions, ni les blindés. Rien ne manque, sauf les routes qu'il faut creuser au fur et à mesure. Les camions ne manquent pas pour transporter les hommes, et ce sont les hommes qui souvent doivent les pousser. Finalement, c'est sur les hommes seuls que pèse cette guerre, car 30 000 félagas ont imposé leur guerre primitive à 400 000 soldats d'une armée moderne. Dans ces camions, il y a des marins, des aviateurs, des cavaliers avec les fantassins. En quelques kilomètres, ils vont en descendre pour marcher. Ils se comparent à des crapauds, ils crapahutent, c'est leur terme.
Lorsqu'ils ont filmé le départ de ces soldats en opération, Jean Lartégui et Pierre Schendorfer ne se doutaient pas que l'un de ces hommes, le dernier à droite, celui qui pousse son camarade, serait le héros de leur reportage. Ce soldat, ce soir, est dans le studio de 5 colonnes à la une. Pendant que vous allez vivre son histoire, lui va la revivre. Écoutez-le.
C'est toute une histoire. Nous étions engagés dans l'opération Jumelle et nous étions en réserve héliportée. Une alerte a été déclenchée. Nous avons été héliportés 10 minutes après sur un piton environ à 7 km du PC Artois. Nous étions en position de ratissage, les 4 sections ensemble, 4 sections du commando. Comme le terrain était très difficile, le ratissage était plutôt serré. À un certain moment, la deuxième section s'est fait tirer dessus. La deuxième section était à notre droite, elle s'est fait accrocher.
Alors la voltige avant de chez nous commençait déjà à ratisser.
Alors nous étions avec l'adjudant de l'homme, qui est un type très bien, entre parenthèses, et nous étions 3-4 qui formions la pièce FM. Comme le terrain était très broussailleux et rocailleux, on voyait très mal. Alors à un certain moment, nous avons décidé qu'il nous fallait descendre aussi pour ratisser.
Au total, près de 60 000 soldats seront envoyés en Algérie. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ces 60 000 soldats sont des appelés du contingent. Alors, bien évidemment, ils sont encadrés par des militaires de carrière, mais certains sont des appelés qui font leur service militaire dans ce cadre-là. D'autres ont été rappelés après avoir fait leur service militaire. On a donc un contingent constitué essentiellement d'appelés, donc de gens qui n'ont pas l'habitude de la guerre. Alors, au passage, ça aura un effet, c'est-à-dire que lorsque les généraux feront un putsch contre le pouvoir central, eh bien, ce sont ces appelés qui refuseront de porter les armes et en tout cas qui refuseront d'assumer le coup d'État que tentent les généraux d'Algérie. Cette guerre aura sur ces hommes, qui sont donc par définition peu habitués à voir les horreurs de la guerre, auront des conséquences terribles. Je vous propose d'écouter une archive d'un ancien combattant d'Algérie, donc quelqu'un qui est parti là-bas, il avait 20 ans, en toute, j'allais dire, innocence, et qui est revenu désenchanté.
Alors quand je suis entré en Algérie, heureusement que j'ai eu des parents, parce que vous n'avez plus la tête à vous. Vous êtes déphrasé complètement pour vous faire reprendre le boulot, vous dites ah, pourquoi, etc. Et bon, il faut se réhabiller, on n'a plus rien. Donc mes parents, heureusement j'étais fils unique, donc il n'y a pas eu de problème. Ils m'ont bien relancé dans la réintégration de ma vie sociale. Et je leur remercie. Et donc après, pendant un moment on a un peu la tête, mais ça nous fait du bien d'oxygéner, de plus avoir des mitraillettes, des grenades, de voir des morts, d'entendre des embuscades. Vous poussez un soupir énorme. J'ai toujours évité de parler avec n'importe qui de la guerre d'Algérie. Je pense que c'était mon point à moi et à personne d'autre.
D'accord.
Même mes enfants, des fois, ils me disent « Papa, bon, je vais vous expliquer, mais je ne vais jamais à fond. » Je ne leur parle pas de ce que j'ai vu, les morts et tout ça. Parce qu'ils ne comprendraient pas qu'à eux, à 20 ans, ils s'amusaient, puis moi, j'étais dans l'angoisse, quoi. Bon, comme tout, pendant 2-3 jours aux parents, à la famille, et encore vous disiez pas, j'ai pas dit à ma mère que j'avais vu des morts, tout allait très bien. Déjà ma mère se faisait tellement de soucis que. Avec les gars, après on s'explique où t'étais, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as vu, alors on se raconte là, parce qu'on se retrouve dans le corps avec les gars qui l'ont vécu. Ils ont connu la même misère. Les mêmes angoisses et les mêmes peurs.
Voilà, on mesure par là l'impact terrible qu'a eu cette dernière guerre coloniale sur le contingent et sur ceux qui le constituaient. Cette année-là, en 1954, le jazz commence à s'installer en France et notamment à Paris. C'est la création de l'Académie du jazz avec comme président André Audert, qui vient de publier « Hommes et problèmes du jazz ». C'est aussi l'année que le couple Barclay choisit pour fonder leur compagnie de disques, et c'est également l'année de la fondation de Emarcy, qui est une filiale de disques Mercury. C'est aussi une année très importante parce que c'est la fondation d'une revue qui existe encore aujourd'hui, Jazz Magazine. Alors, revue fondée dans le cadre des éditions Barclay, et puis racheté en 1957 par le fameux duo Théno et Philippe Aki, qui crée à la radio une émission qui restera célèbre pour ceux qui aiment le jazz sur Europe 1 en 1955. Dans les clubs, on entend les premiers éléments de composition de jazz moderne, mais que l'on peut facilement rapprocher du West Coast, comme Bobby Jaspar. Bobby Jaspar and his modern jazz, donc en compagnie de Roger Guérin à la trompette, Nat Peck au trombone, Bim Bonville et Bobby Jaspar au saxophone ténor, tous les deux, Maurice Vander au piano, Pierre Michelot à la basse, Jean-Louis Vial à la batterie, enregistré le 12 janvier 1954. Alors cet album fera, qu'ils appellent Bobby Jaspar and his modern jazz, enregistré pour la marque Vogue, eh bien fera un petit peu, pas scandale, mais disons, fera un certain effet. Ce jazz apparaît à ce moment-là comme un petit peu expérimental. Et en fait, il trouve son, son correspondant aux États-Unis, parce que c'est un mouvement qui se développe, avec un batteur qui tente des expériences. Il s'agit de Chelly Mayne. Chase, enregistré en septembre 1954 par Chelly Mayne à la batterie. C'est l'une des premières fois où un leader dirige le groupe à partir de la batterie, et là on l'entend parfaitement, avec donc Jimmy Giuffre au saxophone ténor, Shorty Rogers à la trompette et Russ Freeman au piano. Pas de basse, donc pas de section, c'est une formation très originale, un petit peu comme celle de Bobby Jaspar. Bobby Jaspar, qui d'ailleurs, musicien d'origine belge, qui va travailler dans les années 50 en France, repartira, s'exilera aux États-Unis, où il fera une carrière sur la côte ouest. Parce qu'en fait, donc, ce sont des musiciens blancs, pourquoi ne pas le dire, et donc ils vont sur la côte ouest, donc de l'autre côté de New York, vers San Francisco, ils vont créer une sorte de mouvement qui donnera cette musique que certains peuvent trouver un petit peu froide, qui s'approchera un peu du cool, mais qui, malgré tout, sont des tentatives intéressantes sur le plan musical. Alors, il est un autre musicien qui apparaît, mais qui va avoir une vie terrible, absolument, c'est Art Pepper, et qui était probablement un des musiciens les plus doués de sa génération. Il admirait Charlie Parker, il jouait comme lui du saxophone alto. C'est un musicien extraordinaire, mais malheureusement, sa vie sera un véritable enfer. Art Pepper, enregistré en 1954, malheureusement usé par les drogues et l'alcool, rongé par une cirrhose du foie et une maladie de la rate, Art Pepper voit brutalement sa santé décliner dans les années 80 et il souffre de mille maux qu'il combat avec des stupéfiants, ce qui n'est peut-être pas la meilleure façon de procéder, et il s'éteint donc à Los Angeles le 15 juillet 1982. Je signale qu'il a écrit son autobiographie, ce qui s'appelle « Straight Life », avec le concours de sa dernière épouse, Lori Pepper, et qu'on peut se procurer ce livre qui est un véritable voyage au bout de l'enfer musical à travers la vie donc de Art Pepper. Alors, il est un autre saxophoniste alto qui a probablement un de ceux qui ont le plus marqué l'histoire du jazz. On est en 1954, il va disparaître en 1957. Écoutons une dernière fois Charlie Parker.
Mmh.
My Heart Belongs to Daddy, une composition de Cole Porter par Charlie Parker Quintet, enregistrée le 31 mars 1954. Outre Charlie Parker au saxophone alto, évidemment, Walter Bishop au piano, Jérôme Dar à la guitare, Teddy Kotick à la basse et Roy Haynes à la batterie. Bird s'éteindra tout doucement chez la baronne Panonica de Königswarter le 15 mars 1955. Voilà, ainsi s'achève cette série consacrée à l'année 1954. La semaine prochaine, une autre année, une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il n'y aura pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte The Wear en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.